D'abord, je dois excuser Madame Schmidt qui est en Afrique, donc elle ne peut pas être simultanément dans cette salle, comme vous l'avez bien imaginé. Alors, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'avoir parmi nous le docteur Olivier Flournoy, psychanalyste, que c'est inutile de vous le présenter, que vous le connaissez sûrement par son travail analytique, par ses articles, par son dernier livre, « Le temps d'une psychanalyse », livre d'une originalité tout à fait remarquable, dans lequel il donne la notion de l'espace et de temps de l'expérience métapsychologique avec l'originalité qui les caractérise. Alors, comme je ne suis pas là pour faire la publicité du livre ou de dire des choses que vous connaissez très bien, je vous lui donne tout de suite le temps pour nous parler du rêve et de la créativité, en espérant que cela va provoquer une discussion intéressante et fructueuse.
Je ne parlerai du rêve que dans un moment, parce qu'il faut que je vous explique d'abord tous les détours de ma pensée avant d'être arrivé au rêve. Quand Nikos Nikolaïdis m'a proposé de venir vous parler sur créativité et ou symptômes, l'idée m'a beaucoup plu. Et puis, très rapidement, je me suis confronté, comme vous l'imaginez bien, au piège du titre. Vous savez que Nikos Nikolaïdis est un spécialiste du piège, il aime bien ça. Et je me suis senti un peu piégé, en deux mots, parce que le problème de la créativité est évidemment un problème qu'on ne peut absolument pas cerner. C'est-à-dire que si on essaye de savoir de quoi il s'agit, de quoi il en retourne, et si on croit qu'on pourrait comprendre les mécanismes de la créativité, ipso facto, on deviendrait Dieu, qui est le seul créateur qui a créé le monde. Par contre, si on ne veut pas essayer de découvrir les mécanismes de la créativité, alors on s'aperçoit que la créativité, ou si on essaye quand même de les découvrir sans pour autant vouloir devenir créateur, alors on s'aperçoit qu'on tombe immédiatement dans quelque chose qui nous fait échapper à ce qui est essentiel à la créativité, c'est-à-dire au don, au mystère qui concerne la création, pour tomber dans l'artisanat ou dans la fabrication. On peut retrouver cette problématique en sens inverse. Si on pense actuellement aux grands créateurs, qui sont-ils? Ce ne sont sûrement pas les peintres qui sont des peintres, ou les compositeurs qui sont des compositeurs, ou encore les écrivains qui écrivent des livres. Ce sont essentiellement des artisans, c'est-à-dire avant tout des couturiers, et puis, secondairement, peut-être des coiffeurs, et on pourrait dire encore des bottiers. Et on retrouve ce mystère dans leur création, puisque ce sont eux qui, finalement, s'arrogent le titre de créateur, à juste titre. C'est qu'une fois qu'ils ont fait leur travail d'artisanat, et que ce travail d'artisanat est déposé sur quelqu'un, mettons sur une femme, eh bien, cette femme ne brille plus de la qualité des vêtements qu'elle met, mais c'est elle-même, dans son visage, qu'on retrouve la qualité de la création. Il y a donc là un mystère d'une transposition de quelque chose, d'un artisanat, à une création qui est bien l'apanage de l'être, de la créature par excellence, qui est la femme. Et bien, à partir de ça, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que la créativité? Et puis, je pense que comme vous l'avez déjà tous fait, j'ai consulté le dictionnaire. Et bien sûr, j'ai commencé par le Robert. Eh bien, dans Robert, il n'y a ni créativité, ni créatif. Ce sont des mots qui n'existent pas. Donc, je ne sais pas si c'est toi qui les as inventés, mais en tout cas, ils n'y sont pas. Par contre, je reconnais qu'ils sont dans le Larousse. Et moi, pour ma part, en créativité, j'entendais quelque chose comme de l'ordre de l'action qui mène à un produit fini, à une création. Eh bien, dans Larousse, j'ai été très étonné de voir la définition qui s'y trouvait, j'en ai consulté deux, c'est le caractère d'une personne créative. C'est tout de même étrange. Alors, Le caractère d'une personne créative nous fait aller évidemment plus loin au problème de la création et du créateur. La création, c'est très typique, c'est sortir du néant, et l'exemple, c'est Dieu créa le monde. Donc, de là, le créateur, il s'agit de Dieu, et la créativité, ça serait finalement la caractéristique, mais le caractère de Dieu, ce qui est quand même assez différent et assez ambitieux si on veut savoir ce que c'est que la créativité. Alors, à partir de Dieu comme créateur, j'ai pensé aussi prendre d'autres exemples, tels que par exemple Picasso comme créateur d'un tableau. Et là, on retrouve des idées qui seraient plutôt conformes à ce que je pensais de la créativité, et je pense que c'est aussi le point de vue que vous partagez, c'est-à-dire qu'il y a là la création, par exemple, que ce soit le monde ou que ce soit un tableau, demande pour être création d'être consacrée par une valeur d'origine sociale. Et deuxièmement, il semblerait que la création devrait consister en une sorte de détachement du créateur, c'est-à-dire posséder des qualités intrinsèques à elle-même. Et pourtant, là, je crois que ce problème des qualités intrinsèques à elles-mêmes ne suffit pas du tout. Et que ce détachement n'est pas la caractéristique de la création. Qu'un monde sans Dieu ne serait peut-être pas une création, et qu'un tableau sans Picasso ne serait pas non plus un tableau de la même valeur. C'est curieux, mais en fait, la plupart des œuvres, des créations dont on parle, doivent être toujours liés à leur créateur d'une manière ou d'une autre. Et alors là, j'ai trouvé un point qui me paraît important pour la suite de mon développement, c'est l'attribution nécessaire d'un lien symbolique ou d'une certaine symbolique entre le créateur et l'objet créé. Et ce lien symbolique est évidemment à double sens. Le tableau de Picasso retentit sur Picasso, en quelque sorte transforme Picasso, et réciproquement, c'est Picasso qui aussi a transformé ou a conféré quelque chose à son tableau pour que ce tableau devienne création. Il y a donc là un lien symbolique à double sens qui me paraît important. Ainsi, je suis revenu à partir de là au titre de ces exposés en général, créativité ou symptôme. Comme je suis un des premiers, j'espère que je ne répète pas ce qui a été déjà dit, et je profite aussi du fait que d'autres n'ont pas encore parlé de ce sujet. L'opposition créativité-symptôme m'a paru n'en pas être une. Ou alors, on pourrait dire que du côté du créativité règne une certaine ignorance, un certain mystère de ce quoi il s'agit, alors que le symptôme entrerait dans l'ordre d'une certaine connaissance. On croit savoir ce que c'est qu'un symptôme et on croit savoir ce qu'on peut en faire. Maintenant, la créativité est évidemment un processus en action qui implique des possibilités qui sont mal définissables de création de quelque chose que, par définition, j'ignore. On ne peut pas savoir ce qui va être créé. À ce moment-là, ça n'est plus une création. Le symptôme, par contre, est un résultat, une résultante figée d'un malentendu. D'un malentendu ou d'une pathologie qu'on pourrait attribuer éventuellement à une créativité boiteuse. À ce moment-là, on ne comprend pas et on renonce à comprendre ce dont il s'agit. Mais généralement, on l'attribue à des caractéristiques qui nous paraissent relativement compréhensibles d'un point de vue scientifique. Ou encore, on pourrait dire qu'à travers le symptôme, je sais ce que je cherche. Tandis qu'à travers la créativité, je ne le sais pas. Je ne sais pas ce que je cherche. Et d'autre part, on peut dire que le symptôme s'opposerait plus volontiers à une création qu'au processus de créativité. Maintenant, si on voit ça sous l'angle de la négation, c'est un petit peu différent. Puisque le non-symptôme, on est au clair, c'est le normal. Par contre, le non-créatif, il y a un aspect peut-être péjoratif qui entrerait là-dedans, ça serait quelque chose de l'ordre du stérile, quelque chose de l'ordre de l'immobile, qui pourrait éventuellement revenir du côté du symptôme. Alors, je vais poursuivre dans cette voie et penser que, vous dire que, à mon avis, ce qui s'opposerait au créatif, à l'action de produire du neuf, à l'inconnu, ce serait quelque chose qui est immobile, quelque chose qui correspondrait au réel. Ce serait quelque chose de créé, sans mystère, une fois qu'il est, quelque chose de radicalement détaché du créateur. Le réel brut, le réel tangible, cette table que je suis en train de bousculer, le réel littéral, selon le strict mot, le strict sens du mot, ou encore, par exemple, le chiffre. Le réel concret aussi, le réel répétitif. Par exemple, l'ordre d'alternance du jour et de la nuit, ou dans une idée plus vaste, l'alternance des semailles et des moissons, n'a finalement absolument rien de créateur, il n'y a rien d'innovation, ça se répète de manière régulière et indéfinie. Si le réel colle au monde, si le réel est une sorte de donnée immédiate de la conscience, on pourrait dire, s'il est pris à la lettre, à ce moment-là, il s'oppose à la créativité. Le réel est adéquat. Il y a une adéquation, à ce moment-là, entre l'observateur et l'objet, qui exige une qualité qui est l'adaptation, une bonne adaptation. Et une bonne adaptation n'exige pas ce lien à double sens dont je vous ai parlé à l'instant, ce lien à double sens qui serait une des définitions du symbolique, caractéristique de la créativité. On peut donc opposer créativité et adaptation. Deux mouvements qui seraient divergents, qui seraient inégaux, la créativité menant à la création, l'adaptation menant à l'acceptable, au normal, ou éventuellement, si ça ne marche pas, au symptomatique et au réprouvable. L'adaptation a aussi affaire à, bien sûr, à un processus d'ordre naturel, ce n'est pas seulement institutionnel. L'adaptation naturelle est peut-être extrêmement étonnante, mais elle n'est pas de l'ordre de la créativité. Par exemple, moi je me souviens que j'ai toujours été très frappé dans tous ces modèles d'adaptation naturelle que vous connaissez tous, de celui de la tique. La tique, certaines tiques qui ont un mécanisme de reproduction qui doit se passer dans l'épiderme du dos des bœufs. Et on a observé des tiques qui se mettent sous les branches des arbres et paraît-il, on en a vu qui sont restés là jusqu'à 20 ans, absolument immobiles, figés sous la branche de l'arbre. Et au moment où le bœuf passe, toc, elle lâche, elle tombe, elle s'incruste dans l'épiderme. Et le cycle de reproduction peut reprendre son rythme habituel. Eh bien, cette adaptation qui est scientifiquement reconnue, qui pour moi est stupéfiante comme tous ces cycles de reproduction que vous connaissez bien, ne donne absolument aucune explication, quelle qu'elle soit, quant au caractère du créateur qui a inventé un machin pareil, ou de la nature même de ce cycle de reproduction. L'adaptation n'est pas seulement naturelle, bien entendu, c'est l'adaptation sociologique à la famille, au milieu social, l'adaptation au milieu économique, au milieu politique, etc. Et qui est une visée louable en soi pour certains. C'est un but recherché à travers de toutes sortes d'institutions, système scolaire, psychothérapie, certaines psychologies, avec, comme vous le savez bien dans les milieux estudiantins, le danger de la récupération par le politique. Eh bien, l'adaptation, c'est la visée de certaines qualités qui excluent aussi bien la créativité que, en principe, le symptôme, puisque le symptôme serait d'une mauvaise adaptation. Pour continuer, je vais faire un petit détour très sommaire, linguistique. Je pense qu'une bonne adaptation, on pourrait la voir dans une adéquation du signifiant au signifié. Par exemple, si pour un mot banal, par exemple la montagne, si le signifiant et le signifié se soudent complètement, au point de ne laisser aucun espace pour la barre qui les sépare, à ce moment-là, tous les élèves des écoles, et peut-être on peut dire davantage tous les gens parlant français, feront preuve d'une adaptation ou d'un ajustement parfaitement conforme à la réalité montagne. Si par contre l'adaptation est imparfaite, cette négativité, de nouveau, va surgir dans l'adéquation au réel littéral, à l'objet montagne. Et elle va mettre, du fait de quelque chose qui s'introduira dans la barre entre signifiant et signifié, elle va mettre le consensus général en péril, ou en question, ou en émoi. Il n'y aura plus de conformité rassurante permettant de dormir en paix. Ce sera mis en péril et on aura des phénomènes de rejet, le symptôme par exemple, ou bien une mauvaise adaptation au signifiant au signifié mettra les gens en émoi ou en question, et on y trouvera à ce moment-là les germes de quelque chose d'original qui pourra être de l'ordre de la créativité, si l'on ne retombe pas dans le conformisme tranquille de l'adaptation. Ainsi, on peut découvrir à travers cet exemple ce qui vient altérer l'adaptation, ce qui vient altérer le conformisme, ou disons la conformité littérale au réel, c'est l'imaginaire. L'imaginaire que chacun risque d'introduire au niveau de la césure entre signifiant et signifié. L'imaginaire qui fera que le mot montagne, ou que la montagne en soi, pour employer des termes sartriens, que la montagne en soi deviendra montagne pour soi, qu'elle deviendra personnifiée. Montagne dangereuse si elle devient de l'ordre du symptôme, ou montagne sublime si elle devient de l'ordre de la créativité, de la création, mais un terme à double sens, puisque on sait bien que pour le sublime, on peut aussi bien tuer son prochain que l'aimer. De nouveau, on retrouve cette même problématique. Que veut dire ce terme de création si ce n'est quelque chose qui effectivement nous dépasse et que l'imaginaire ici nous indique mais ne nous explique pas. Je vous dis deux mots à propos du structuralisme que vous connaissez sûrement bien mieux que moi, mais enfin qui m'aide à continuer dans la voie que je me suis tracée. Vous savez que dans le livre de Marcel Mauss, qui s'appelle Anthropologie et sociologie, il y décrit notamment des phénomènes qu'il a observés dans des civilisations dont il s'est occupé, sous le terme de mana. Et ce qu'il dit à propos de ce mana, qui est cette frange inexplicable et qui ne peut pas être réduite à la théorie, aux théories anthropologiques, il en conclut, de manière très, très grossière pour, dans ce que je vous dis, mais enfin, il en conclut qu'il s'agit de quelque chose qu'il appelle de l'ordre du sacré, donc quelque chose qui est inaccessible pour soi, et il pense que cet ordre du sacré tient à des phénomènes d'ordre sociologique inexplicables par l'individu, par Marcel Mauss, entre autres, que ça dépasse l'explication psychologique de l'anthropologie. Et dans ce livre-là, Lévi-Strauss a fait une préface qu'on a appelée, après coup, le manifeste de l'anthropologie structuraliste, ou du structuralisme qui a fait vague en France ces dernières années. Lévi-Strauss dit non, c'est pas le cas, il ne s'agit pas de sacré, c'est incongru, ce mystérieux que vous soulignez à travers le mot de mana, eh bien, c'est comme le signifiant. Mais c'est un signifiant qui serait vague, un signifiant qui serait ouvert, un signifiant libre, disponible, qui est à la recherche de son signifié. Alors, Lévi-Strauss d'en tirer ses conclusions, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de sacré, ou encore, il n'y a de mystère que ce qui n'a pas encore été scientifiquement explicable, que ce qui, comme le signifiant, serait un signifiant vague qui n'aurait pas encore trouvé son signifié. Ce qu'il faut, vous le voyez tout de suite, c'est du temps. C'est du temps, et ce que Lévi-Strauss fait, qui n'est pas nouveau, mais qui est à la base de sa réflexion, c'est quelque chose de l'ordre de l'exclusion de la transcendance. Il s'agit de chercher le signifié adéquat. Mais là, il faut faire attention tout de suite quand on comprend ces théories qui sont très satisfaisantes, c'est que Lévi-Strauss lui-même va se trouver dans la position du créateur lui-même et non pas expliquer ce dont il se passe. C'est-à-dire que il n'y a pas explication du sacré, mais il y a présentification du sacré à travers la personne de Lévi-Strauss qui dit « Eh bien, voilà, moi je sais, je pense qu'on va pouvoir découvrir les lois du mystère, mais c'est justement lui qui reste la clé du mystère, puisque c'est lui qui sait à travers les théories qu'il nous donne. » Je pense qu'à travers ce détour, on peut dépasser le problème de la créativité par rapport aux symptômes qui était posé dans le titre de ces conférences pour arriver à une même problématique qu'on pourrait intituler « Créativité et ou connaissance ». Donc on élargit beaucoup, tout au moins moi j'élargis beaucoup cette problématique qui nous a été offerte à titre de réflexion. Et alors, pour Lévi-Strauss, évidemment, scientifiquement, le sacré devient simplement, dans le cadre de ces conférences, le symptôme. Il s'agit de pouvoir le résoudre. Une approche scientifique de la psychanalyse, dans l'optique de ce structuralisme de Lévi-Strauss, est tout à fait concevable. On pourrait l'intituler « De la symptomatique ou du symptôme à l'adaptation ». Ainsi, par exemple, le refoulement qui serait à l'origine de l'indicible, de l'inconscient, du sacré, comme s'il y avait eu une rupture entre signifiant et signifié. Et ce refoulement, si on décide qu'il ne s'agit pas de sacré, mais qu'effectivement il s'agit d'un défaut de connaissance à ce moment-là, peut nous servir, ce concept de refoulement peut nous servir d'explication théorique à l'amnésie infantile. Effectivement, l'amnésie infantile, qui est un phénomène très important en psychanalyse et en observation enfin, de l'enfance, on pourrait dire qu'elle a été due, par exemple, à une sorte de rupture entre signifiant et signifié de ce qui s'est passé avant et qui a causé l'amnésie du fait qu'on n'est plus qu'en présence d'un signifiant à défaut de signifié. L'inconscient, l'indicible, chercheraient leur expression à travers ce qu'on appelle le retour du refoulé. Ce serait exactement, selon les termes de Lévi-Strauss, des signifiants vagues, des signifiants à la recherche d'un signifié adéquat, ce à quoi s'attacherait ou s'attellerait le psychanalyste, trouver un signifié adéquat pour traduire ces signifiants vagues. Tout ce qu'on appelle des machins, des trucs, des choses, qui sont des termes tellement précieux, serait effectivement une dénomination de signifiant vague à la recherche d'une dénomination définitive et universelle qui leverait cette hypothèque du sacré, mais qui en même temps, à mon avis, leverait aussi l'hypothèque de la créativité et de son mystère. Eh bien, cette sorte de psychanalyse-là, c'est à mon avis ce qu'on a très souvent reproché et à tort à la psychanalyse, tout au moins à celle que je conçois. Réduire la créativité à l'adaptation. Et on voit souvent des gens qui viennent nous dire « Mais qu'est-ce que vous voulez que je vienne faire une psychanalyse? Je vais perdre tous mes moyens, tout mon magnifique esprit créatif dont il ne sort rien. » Eh bien, il va simplement disparaître. Évidemment, sur un certain plan, c'est très rassurant, parce qu'on n'a plus besoin de se poser de problèmes. Mais il s'agit quand même d'un modèle absolument scientifiquement parfait de la psychanalyse qui est inacceptable pour nous et qui même est inacceptable pour Lacan. Lacan qui serait pourtant le principal représentant d'une tendance qu'on pourrait décrire comme parallèle à la tendance du structuralisme de Lévi-Strauss. Lacan, en effet, attire l'attention sur une frange qui serait inaccessible et qui empêche d'accepter l'hypothèse de Lévi-Strauss. Ça n'est du reste pas le premier. Freud l'a fait dès le début quand il a parlé d'un refoulement primaire, quelque chose qui n'arriverait jamais au retour de foulée, du refoulé, donc qui ne trouverait jamais son signifié, si vous voulez. Mais l'avantage de Lacan sur Freud, c'est qu'il est à la mode. Et Lacan donne comme exemple, qui est assez frappant, le nom du père, l'exemple du nom du père qu'il considère comme fort clos et non pas comme exclu. Je ne sais pas si vous savez bien la différence entre fort clos et exclu, je n'en doute pas, mais enfin je vous la répète quand même. Je crois que la forclusion signifie que c'est inaccessible d'emblée, alors que l'exclusion implique qu'il y a eu, à un moment donné, quelque chose d'accessible qui a été exclu. Et alors, il rejoint, dans un certain sens, le domaine du sacré de Mauss à travers cette idée de l'inaccessible d'emblée. Le nom du père est inaccessible d'emblée. Pourquoi ? Inaccessible d'emblée pour le sujet. Si, par exemple, il se trouve que je m'appelle Olivier Flournoy, je peux dire à un moment donné que je suis Olivier, que c'est mon nom. Par contre, le nom Flournoy restera toujours le nom de mon père. Que je sois son fils, que je devienne père, que je devienne grand-père, c'est toujours le nom du père, c'est-à-dire que ça sera toujours quelque chose qui m'est parfaitement familier, mais qui m'est aliéné à moi comme sujet ou comme je. Et pour les femmes, c'est évidemment le même problème, avec en plus la complication que le nom du père peut disparaître pour être remplacé par le nom du mari, ce qui ne fait rien pour simplifier les choses. Mais de toute manière, à travers ce nom du père, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui échappe totalement, quelque chose qu'on pourrait dire de l'ordre du mystérieux, du sacré, qui par conséquent nous rappelle le problème de la création, et qui n'est pas du tout réductible à un simple défaut de connaissance qui serait réductible avec le temps. Malheureusement, Lacan, je pense, veut tout de même se tenir dans la lignée de Lévi-Strauss, et on s'aperçoit qu'à ce moment-là où le bât blesse, c'est que Lacan va se résigner devant la psychose. Autrement dit, devant la psychose, il va constater cette forclusion du nom du père. Il va dire que c'est un problème de linguistique, pas exactement de linguisterie, comme il dit, et non pas un mystère. Et alors, devant cette affirmation, il ne peut plus agir sur la psychose, c'est-à-dire qu'il va baisser les bras devant cette observation. Il renonce et on pourrait dire qu'il se forclôt lui-même. Et je crois qu'on trouve à travers cette idée, cette même idée que j'ai essayé de vous faire passer avec Lévi-Strauss, c'est Lacan qui devient le maître de toute la situation, comme Lévi-Strauss devient le maître de toute l'anthropologie. Lévi-Strauss fait disparaître le sacré, il devient sacré lui-même. Et Lacan, si on examine le problème de la psychose, c'est lui qui devient sacré lui-même. Il n'y a plus de possibilité de s'attaquer au problème de la psychose. Enfin, pour en finir avec cette parenthèse linguistico-structurale, je pense que l'opposition entre le réel littéral et la créativité, ou par exemple entre le réel et l'imaginaire, ou encore entre le symptôme et la créativité, ne suffira pas non plus au niveau d'une explication théorique de base, dans la mesure où, au niveau social, on se trouve, bien sûr, en butte au génie de chaque langue différente, c'est-à-dire de la tour de Babel, que ce soit pour notre bonheur ou, je crois surtout, pour notre malheur. Et en effet, au niveau sociologique de la multiplicité des langues, s'introduit là un trait d'union, ou au contraire, justement, un trait de désunion entre les gens qui les transcendent, même si on veut réduire la transcendance à un fait de langue, qui les transcendent tout en étant propres à leur nature intime d'individu parlant, de parlêtre, comme disait Lacan. Alors la montagne, la berg, the mountain, la montagna, tout ça ne cessera de faire question. Et non pas sur le seul plan linguistique, bien sûr, mais sur celui des passions. Et on tuera au niveau, au nom de la langue, comme on pourra tuer au nom de la couleur de la peau. Ainsi, la créativité m'évoque-t-elle quelque chose à la fois de très personnel, mais en même temps d'interpersonnel, et je crois aussi à la fois de transpersonnel, avec cette qualité symbolique de va-et-vient entre le créateur et sa création. Et quelque chose surtout qui échappe quelque part radicalement à toute réduction scientifique ou à toute réduction psychologique. Il y a certains ordres de valeurs qui lui sont congruents. Et ces ordres de valeurs, je pense, on ne peut pas y échapper, ce sont l'éthique, et c'est l'esthétique, et dans une certaine part, c'est le mysticisme. Tout ceci peut être aussi réuni sous l'expression, la connotation du sacré, qui est un terme à la mode dans certaines disciplines. Et pourquoi pas aussi, l'ordre de valeur du pathologique doit aussi se référer au problème de la créativité, si l'on veut. Alors que pour ce qui est du symptôme, finalement, le symptôme n'évoque que l'opprobre vis-à-vis du pathologique. Le symptôme, c'est pas bien, il faut s'en débarrasser, et il faut promouvoir le règne de l'adaptation au normal qui exclura le symptôme comme quelque chose d'incongru et d'inacceptable. Eh bien, ceci dit, je crois que je vais en arriver au rêve maintenant et vous dire quelques mots à propos de ce que ça m'a fait penser concernant les rêves. Il me semble que sans dissociation entre ou sans disjonction dans ce rapport entre signifiant et signifié dont je vous ai parlé, le rêve pourrait tomber simplement dans la catégorie du normal ou du symptôme.
Ou du cauchemar, si tu me permets.
Oui, bon, alors le cauchemar serait un symptôme, peut-être, oui. D'accord. Alors, le rêve, à ce niveau-là, pour pouvoir continuer, je vais vous raconter un rêve. Vous savez que les rêves sont compliqués, alors j'ai essayé d'en prendre un qui n'était pas trop compliqué. Et j'ai pris le rêve du neveu de Sigmund Freud qui a 22 ans, pardon, excusez-moi, 22 mois, ce qui simplifie aussi le problème. Et je vous raconte ce rêve en entier, c'est tel que le neveu de Freud l'a raconté à Freud, c'est, je vous le dis en allemand, mais je vous le traduirai après, c'est Hermann alle Kirchen aufgessen. Voilà. Alors, ce rêve, en traduction française, veut dire que Hermann a dévoré toutes les cerises. Et alors ? Eh bien voilà. Eh bien, c'est un rêve qui, pour certains, n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que ça nous fait, que Hermann ait rêvé qu'il ait mangé toutes les cerises ? Ou bien, alors, c'est peut-être un rêve qui est symptomatique. Et il serait symptomatique de quoi ? D'une nuit agitée. Un rêve, au fond, ne devrait même pas exister pour ceux qui pensent que le sommeil, c'est la caractéristique des gens qui dorment. Ça sert à rien, un rêve, c'est complètement inutile. Un rêve, c'est fait pour s'oublier. Et vous serez tous d'accord avec moi que c'est bien le cas pour la plupart d'entre nous. Heureusement, on les oublie. Et bien à partir de ça, Freud s'y oppose. C'est de nouveau pas le seul, mais enfin là, c'est caractéristique de Freud, il dit non. Ça n'est pas fait pour s'oublier, ça a toutes sortes de significations. Dont une des premières significations, c'est que le rêve serait la satisfaction d'un désir de la veille. Alors voilà déjà un sens. Hermann a mangé toutes les cerises. Ou encore, ça serait la satisfaction d'un désir de revivre une satisfaction qu'on aurait cru éprouver une fois ou l'autre. Ceci n'est pas absolument nouveau, mais néanmoins, il y a là un accent de Freud sur certains problèmes qui est tout à fait nouveau. Et puis, ce qui est nouveau aussi, ou tout au moins ce qu'on lui a reproché de mettre comme nouveauté, c'est l'essence du désir, donc l'essence sexuelle ou l'essence libidinale remontant loin en arrière. Comment peut-on dire que ce pauvre petit Hermann a 22 ans, a des désirs, à 22 mois, je refais la faute, a des désirs sexuels et libidinaux? C'est vraiment impensable. Et surtout, pour notre propos ici, je crois que ce qui est nouveau, c'est l'emploi du rêve dans une certaine visée, dans un certain but, une intentionnalité. Et là, j'insiste tout de suite, non pas seulement le rêve comme expression d'une symptomatologie ou expression d'une créativité, mais bien l'utilisation du récit du rêve à certaines fins intentionnelles. Sigmund Freud, du reste, a été très surpris par les rêves. Ce dont il s'occupait au début, c'était des hystériques, et il avait inventé ces techniques de talking cure, de chimney sweeping, destinées à comprendre la signification des symptômes hystériques, et il a été très surpris que des gens se soient mis à leur raconter des rêves. Dans quel but et pourquoi? Eh bien, là, je vous donne le récit des circonstances du rêve de Hermann. Hermann avait dû, la veille, porter à son grand-oncle Freud un petit baquet de cerises qui était à l'époque des fruits extrêmement rares vu la saison et qui lui a fait très envie. Et Freud pensait qu'il avait surpris dans le visage d'Hermann une certaine envie ou un certain désir de manger ces cerises. Et Hermann les avait portées sur l'ordre de ses parents, bien sûr. Et alors, Freud voit une des origines du rêve d'Hermann. Quelle satisfaction? Eh bien sûr, la satisfaction du désir interdit par ses parents, je dis bien interdit, donc pas seulement le désir, de la veille de manger les cerises. Est-ce que c'est une satisfaction hallucinatoire à travers le rêve, comme on l'a souvent dit? À mon avis, là, c'est une opinion très personnelle, je dirais sûrement pas. Je la qualifierais soit d'imaginaire, soit, me semble-t-il, de manière plus exacte, d'onirique. Évidemment, ça n'est pas une explication, mais à mon avis, c'est une satisfaction onirique. Et pourtant, on voit bien, on peut déjà vaguement percevoir à travers cette satisfaction onirique quelque chose de fou. C'est-à-dire que c'est un désir fou de cet objet manquant, un désir passionnel au point d'aller troubler le sommeil d'un enfant de 22 mois. Et un désir tel qu'il pousse aussi cet enfant à s'en souvenir et à aller le raconter. Donc c'est un désir beaucoup plus violent que quelque chose de banal qui n'aurait pas dû venir troubler son sommeil. Et il y a dans ce rêve-là des avantages. Il y a par exemple des avantages indiscutables. Au fond, un des avantages, c'est que la satisfaction est éternellement renouvelable. Il aura toujours des cerises à disposition dans ses rêves, et il a beau les manger, l'objet est indestructible. C'est une satisfaction, et on se demande pourquoi le rêve n'a lieu qu'une fois, et pourquoi nous avons tous, dans ces conditions, tellement de peine à rêver des rêves parfaitement satisfaisants, alors que l'objet est là, et qu'on ne le détruit même pas en y rêvant. Il y a une autre satisfaction indéniable, c'est qu'il n'y a personne de réel qui vienne embêter Hermann, lui casser les pieds, et à aller lui faire porter ces choses à son grand-père, et personne ne peut l'empêcher de commettre son rêve. Il n'y a vraiment que lui qui peut encore se réveiller et s'en souvenir, mais il pourrait très bien le rêver et continuer à dormir tranquillement. Ce sont des satisfactions qui me paraissent tout à fait indéniables au niveau du rêve, et qui devrait, en somme, compenser les désavantages du rêve. Désavantages que le sommeil est troublé, que l'objet est imaginaire et que certains autres objets, tels que les parents, ont été éliminés. Et pourtant, là saute aux yeux le revers de la médaille. Le rêve a quelque chose de particulier, c'est qu'il reflète une solitude absolument implacable. Sa toute-puissance annihile ici tout être vivant. Il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère, sans lesquelles Hermann ne peut pas vivre. Il n'y a même plus le grand-père Freud. Il est seul avec ses cerises à les manger dans son rêve. Autrement dit, toute société a été éliminée, et aussi toute morale, toute éthique, puisqu'il commet son forfait en toute tranquillité. Il y a là, on perçoit à travers ça, un prix absolument exorbitant, le prix qu'il faut payer pour obtenir la satisfaction du désir. Ainsi, si le rêve crée une situation tout à fait originale, elle n'est toutefois que parfaitement égoïste et parfaitement fermée sur soi. À tel point pourrait-on dire qu'il devient tout à fait légitime de l'oublier. Pourquoi se souvenir d'un rêve? Pourquoi s'en encombrer? Le perdre, l'oublier, c'est aussi en oublier le prix exorbitant. Dans ce cas-là, alors on peut dire que le sujet du rêve et de la créativité tombe. Le rêve n'est pas créatif. Le rêve n'est pas non plus création, avec ses qualités intrinsèques et avec son lien entre rêve et rêveur. Il ne serait simplement qu'adaptatif. Le rêve ne serait qu'une sorte de répétition naturelle, une sorte d'homéostase, de régulation, comme le sommeil qui précède ou succède l'état de veille. Comme il s'agit de bien dormir, puisqu'il faut la nécessité du sommeil et de la veille est absolument indispensable aux conditions d'équilibre de l'être humain, alors on peut dire que le rêve est sans intérêt, à moins, comme vient de le dire Nikos, si il s'agit d'un cauchemar qui vient comme symptôme troubler l'homéostase et l'alternance du jour et de la nuit, du sommeil et du réveil. En psychanalyse, on n'a pas affaire à des rêves. On n'a affaire uniquement qu'à des rêves racontés, à des récits de rêves. Il s'agit donc de quelque chose d'un peu différent. Ou encore, on a affaire à l'oubli des rêves, c'est-à-dire qu'on peut apprendre que les gens ont oublié. On a donc le récit d'une absence de rêve. Où il y a rêve, où il y a absence de rêve, ou sinon le rêve ne concerne pas la psychanalyse. Il faut que ce récit soit oublié, soit raconté comme oublié, ou soit raconté comme ayant existé à propos du rêve, sinon personne n'en saura jamais rien. Donc ici, d'emblée, l'aspect intersubjectif du rêve, en ce qui concerne la psychanalyse, est absolument fondamental. Ainsi, Hermann a rêvé qu'il a mangé toutes les cerises. On peut se demander pourquoi. Là, je fais quelques hypothèses. Peut-être pour narguer. Au fond, il les a mangées malgré nous. Il nous a supprimés, il a supprimé ses parents, il a supprimé son grand-père. C'est bien fait pour nous qui l'embêtions. Il a mangé les cerises. Et en plus, il se fait le plaisir de venir nous le dire. Ça peut être aussi pour témoigner. À ce moment-là, je retrouverai une idée de bonne adaptation. Hermann vient témoigner à son grand-père, ce vieillard si savant et si distingué, qu'il fait preuve de beaucoup d'intelligence et de plaisir dans la résolution d'un problème. Non seulement résolution d'un problème, puisqu'il a résolu son problème de désir, mais encore dans le plaisir de communiquer la résolution de son problème. À ce niveau-là, il devient en quelque sorte l'égal de ses parents et l'égal de son grand-oncle. Une troisième hypothèse serait qu'il vient raconter son rêve pour séduire. Tu sais, mon petit Sigmund, j'ai fait un rêve,